dans quelle mesure et comment on est passé du 18e au 19e au 20e siècle d'un discours scientifique, celui des naturalistes puis des anthropologues, à une saisie de ce scientifique par le politique dans le cadre de ce qu'on appelle le racisme biologique, générateur de la plupart des génocides du XXe siècle. Le règne de Descartes était passé, le règne de Newton qui avait mis les mathématiques au service de la physique s'achevait, les sciences de la nature occupèrent au XVIIIe siècle le premier rang. Les chercheurs eurent l'ambition de conquérir en le pensant tout le créé. On les appelait les naturalistes. Ils formaient un ensemble au milieu des nations, ils fondaient la République des savants. Leur audace était sans limite. Ils s'attaquèrent au problème de la génération des corps organisés et d'entrée, ils exclurent le discontinu. Il fallait une classification, une filiation. Il fallait occuper toutes les cases de la plante à l'homme. Ils savaient que le pouvoir naîtrait du savoir et qu'en connaissant la nature, ils asserviraient la matière. C'est Buffon qui, en 1750, explique la manière de traiter l'histoire naturelle. C'est Buffon qui, plus tard, dans son histoire de la Terre et dans les époques de la nature, offre une conception évolutive des sciences de la nature. Pour y parvenir, il faut observer les faits, dit-il, les observer scrupuleusement, ne pas conclure avant d'avoir obtenu des certitudes ce que les savants terribles qui proliférèrent au XIXe siècle ne firent pas. Il faut savoir que la guerre a véritablement fait rage tout au long du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, entre les tenants du fixisme, qui se référaient en fait à la pensée croyante biblique, et les tenants de l'évolutionnisme. Cuvier s'attaque à Lamarck. Lamarck parle de transformisme. Il dit que les espèces vont se modifier à travers les générations et qu'il y aura une hérédité des caractères acquis. Cuvier demande des preuves, car Buffon avait parlé d'espèces disparues. Mais ces espèces disparues, on ne les trouve pas. Tant qu'il n'y aura pas de preuve de l'existence des espèces disparues, on restera dans la notion du fixisme, on n'aboutira pas à une pensée évolutionniste. Et c'est Darwin, c'est véritablement Charles Darwin qui va renverser complètement le discours. Et honnête naturaliste, devenir en quelque sorte le père d'enfants dégénérés, qui vont amener toutes les catastrophes de la pensée du racisme biologique. En effet, Darwin explique que lui, il a une hypothèse pour expliquer pour les espèces disparues. D'ailleurs, il ne s'occupe pas de la destruction, il passe à la création. Comment apparaissent les espèces? Et il explique que les espèces vont naître par un phénomène évolutionniste, mais par élimination des inaptes dans la lutte pour la vie. Il explique ce que l'on appelle le parricide biologique. Des enfants plus développés vont tuer en quelque sorte leurs parents, dont les fossiles ne garderont même pas la trace. Et il explique, second élément terrible, que le mécanisme de régulation, c'est la sélection naturelle. Donc on a, dès 1859, dans le titre même et le sous-titre de l'œuvre fondamentale de Charles Darwin, toute la pensée qui va se trouver déformée au XXe siècle. L'origine des espèces par voie de sélection naturelle. Le sous-titre, la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Et c'est là que s'opère véritablement la cassure. Darwin ne parle que du monde animal, mais très rapidement, voilà ce qui a pensé avec lui, très rapidement Spencer qui a pensé avec lui, qui va lui succéder, vont conclure que l'espèce humaine est comme les espèces animales divisées en races, et que ces races, comme on le dit tout autour, sont inégales, et qu'il va donc falloir admettre cette évidence que les races inférieures doivent disparaître. Et c'est un cadeau superbe offert à l'Angleterre victorienne qui règne sur le monde et qui pense pouvoir, en partageant un peu l'Afrique, en tout cas avec la France, expliquer toutes ces conquêtes coloniales. Car la conclusion, c'est que les espèces inférieures, les races inférieures, sont destinées à disparaître. Et on explique dans les sociétés savantes anglaises, tout au long des années 60-70 du 19e siècle, que cette disparition est inscrite dans les faits. Certains émettent une hypothèse en disant peut-être qu'on les aide en apportant les maladies, en les assassinant, mais ça ne fait rien, elles sont de toute manière, réplique-t-on, amenées à disparaître. Et c'est alors que tout s'explique, que tout se justifie. Toute cette conquête qui a commencé à la fin du 15e siècle, quand les Espagnols se sont rués sur les îles Fortunées, c'est-à-dire les ganches des Canaries, et qu'ils ont observé leur disparition, qu'ensuite ils se sont rués sur l'Amérique du Sud et que les Indiens, eux aussi, ont disparu. Et dans les sociétés anglaises, on se préoccupe beaucoup des phénomènes de Tasmanie. En 1802, les premiers convicts, les premiers descendants des prisonniers anglais, débarquent en Tasmanie. En 1830, il reste 30 Tasmaniens et la dernière Tasmanienne meurt en 1876. On a donc là un phénomène complètement complet. Et le problème pour les Anglais, c'est de justifier la colonisation en Afrique. Et le darwinisme, tel qu'il est déformé dans cette notion d'élimination des races inférieures par la sélection naturelle, va offrir à tous ces gens la possibilité d'une justification qui va, de toutes les destructions observées par dizaines de millions, car il ne faut pas oublier que l'Afrique, le Congo par exemple, si on croit les références que l'on donne, était une population d'environ 60 millions d'habitants et qu'elle est réduite à moins de dixièmes quelques années après, jusqu'au Herero dont justement parlait tout à l'heure M. Lecourt-Grandmaison.